Pour ceux d'entre vous qui fréquentent l'Assemblée de la Vosges depuis un certain nombre d'années, vous allez peut-être vous dire que je fais une fixation sur le sujet que j'aimerais vous parler aujourd'hui. La semaine dernière, Florine m'a demandé sur quoi j'allais prêcher et lorsque je lui ai dit, elle m'a rappelé que je l'avais déjà fait il y a quelques années. Et la dernière fois, c'est vrai, c'était en 2019. Mais je l'avais déjà fait précédemment. Je m'en souvenais, mais malgré tout, j'avais ce désir ou ce sentiment que je devais encore creuser ces versets. Alors désolé si pour vous c'est une rediffusion de certaines choses que j'aurais pu dire lors de mes précédentes interventions. Je vous invite à lire le chapitre 5 de l'Épître aux Galates. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, car il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu? Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent la trouble parmi vous? Frère, vous avez été appelé à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront jamais point du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Vous connaissez tous ce chapitre de Galates. Je me suis appuyé sur un livre de John Stott que j'avais acheté lors de ma formation FBSA, qui est maintenant, enfin FBSA, qui est maintenant FBSE, je crois, c'est bien ça, pour le message d'aujourd'hui. La première partie, qui comprend les versets 1 à 12, parle de la vraie et de la fausse religion. John Stott divise cette première partie en sous-chapitres. Les vrais et les faux croyants, versets 1 à 6. Les vrais docteurs et les faux docteurs, versets 7 à 12. La deuxième partie comprend les versets 13 à 15, que John Stott appelle la nature de la liberté chrétienne. Là encore, il divise en sous-chapitres. La liberté chrétienne n'est pas la liberté de se laisser aller aux tendances de notre nature pécheresse. Verset 13. La liberté chrétienne n'est pas la liberté d'exploiter son prochain. Verset 13, deuxième partie, et verset 15. La liberté chrétienne n'est pas la liberté de ne pas accomplir la loi. Verset 14. La troisième partie comprend la fin de ce chapitre, les versets 16 à 26, que John Stott appelle « la nature pécheresse et l'esprit ». Là encore, il divise en sous-chapitres « la réalité du combat », versets 16 à 23, « le chemin de la victoire », versets 24 et 25, et enfin « les relations entre chrétiens », qui va du verset 26 au verset 5 du chapitre 6. C'est cette troisième partie où je souhaiterais m'arrêter avec vous. Le premier sous-chapitre, la réalité du combat, versets 16 à 23. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Les désirs de la chair, ce sont nos vieilles habitudes, héritées de notre nature pécheresse, en vertu de notre naissance naturelle. Les désirs de l'esprit sont ce que nous acquérons après notre nouvelle naissance. Pouvons-nous pour autant dire qu'à partir de notre nouvelle naissance, nous n'avons aucun conflit intérieur, aucune guerre civile en nous-mêmes, car notre vieille nature pécheresse est morte? Luther a dit, les chrétiens ne sont nullement en bois. Il est faux de prétendre qu'ils ne réagissent jamais à rien, ne ressentent jamais aucun désir du monde provenant de leur nature pécheresse. John Stott dit encore, « Certes, à mesure que nous marchons selon l'esprit, nous apprenons de plus en plus à maîtriser la nature pécheresse. Néanmoins, celle-ci demeure en nous, en même temps que l'esprit. Et le combat entre eux est féroce et sans relâche. Ce combat est spécifiquement chrétien. » Mais nous ne pouvons pas nier qu'un conflit moral puisse exister chez les non-chrétiens. Toutefois, le combat est plus violent chez les chrétiens, car nous possédons deux natures, la nature pécheresse et la nature de l'esprit, qui ne pourront jamais s'entendre. Je peux témoigner personnellement de nombreux combats intérieurs aujourd'hui encore. Je me souviens d'un récit d'un pasteur disant à un jeune converti qui venait de se faire baptiser, « C'est maintenant que le combat le plus dur va commencer. Tant que nous n'avons pas donné notre vie à Christ, Satan nous fiche à peu près la paix. Mais lorsque nous nous confions en Christ, il déclenche la grosse artillerie et n'a de cesse de nous faire trébucher de mille et une manières. N'oublions jamais que Christ à la croix a vaincu Satan à jamais. Avec Christ, nous avons la victoire. » Nous trouvons les œuvres de notre nature pécheresse au verset 19, 20 et 21. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les excès, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Comme le laisse entendre Paul, lorsqu'il dit « autre chose de ce genre », la liste n'est pas exhaustive. Nous pourrions en ajouter d'autres assez facilement, surtout à l'époque où on vit en 2022. John Stott nous propose de considérer les comportements de nos deux natures qu'il divise en deux domaines. La première, les œuvres de notre nature pécheresse, la sexualité, verset 19, la religion, verset 20, la vie en société, verset 21, les boissons, verset 21 aussi. Il termine ce passage sur les œuvres de notre nature pécheresse avec la deuxième partie du verset 21 que je trouve assez couperet. Je vous le relis. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Ce couperet vient de la traduction en grec, alors je m'excuse de la prononciation, prasontes, qui voudrait dire que c'est une pratique habituelle plutôt qu'accidentelle. Paul ne dit pas qu'un ivrogne, un jaloux, un coléreux, un adultère ne sera pas sauvé, mais il avertit ceux qui se complaisent dans cet état. Après avoir réfléchi sur ce passage et lu ce que l'auteur John Stott, mais aussi le commentaire biblique de William MacDonald, j'en déduis que l'être humain qui ne fait rien pour s'en sortir refuse malgré la réalité et les avertissements, ou encore ne se reconnaît pas dans ses caractéristiques malgré l'évidence, c'est à lui que Paul adresse cet avertissement solennel. Deuxième point, le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Ces neuf grâces chrétiennes dépeignent ce que devrait être l'attitude du chrétien vis-à-vis de Dieu, des autres et de lui-même. D'abord, l'amour, la joie, la paix. Voici un trio de vertus chrétiennes générales. Toutefois, elles paraissent avant tout concerner notre attitude avec Dieu. Car le premier amour du chrétien est son amour pour Dieu. Sa joie principale est sa joie en Dieu. Et sa paix la plus profonde est sa paix avec Dieu. Ensuite, la patience, la bonté, la bénignité. Ce sont des vertus sociales dirigées vers l'homme plutôt que vers Dieu. La patience se montre tolérante envers ceux qui se livrent à la provocation ou la persécution. L'amabilité ou la bénignité est le fait d'avoir bon caractère, tandis que la bonté apparaît dans la parole et les actes. Enfin, le troisième trio, la fidélité, la douceur, la tempérance ou maîtrise de soi. La fidélité constitue la qualité qui permet de compter sur quelqu'un. La douceur est l'humble soumission dont le Christ fit preuve, comme nous pouvons le lire en Matthieu 11, 29. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Et aussi en 2 Corinthiens 10. Moi, Paul, Je suis, paraît-il, timide quand je suis présent parmi vous, et hardi quand je suis absent loin de vous. C'est au nom de la douceur et de la bonté de Christ que je vous adresse cet appel. Ce sont les deux aspects de la maîtrise de soi qui concluent la liste. Ainsi, nous pouvons dire que le premier trio, l'amour, la joie, la paix, est dirigé vers Dieu. Le deuxième trio, la patience, la bonté, la bénignité, est dirigé vers notre prochain. Le troisième trio, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, est dirigé vers soi-même. Toutes ces vertus sont le fruit de l'esprit, produit naturellement dans la vie du chrétien, conduit par l'esprit. Donc, rien d'étonnant à ce que Paul ajoute, la loi ne condamne certes pas de telles choses, car le rôle de la loi consiste à réprimer et dissuader, tandis que de toute évidence, ces vertus n'en ont pas besoin. Nous avons donc vu, les désirs de notre nature pécheresse et le fruit de l'esprit séparément. Leur opposition apparaît clairement, et c'est un combat féroce et permanent pour tout chrétien. Le constat est le suivant pour Paul au verset 17. « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Nous pouvons mettre ce verset en parallèle à Romains 7, versets 15 à 25. « Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je haïs. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Quel constat! Nous avons tous envie d'avoir plus d'amour pour Dieu, plus de joie en Dieu, plus de paix avec Dieu. Nous avons tous envie d'avoir plus de patience, plus de bonté, plus d'amabilité envers les autres. Et enfin, nous voudrions tous développer davantage notre fidélité, notre douceur, notre maîtrise de soi. C'est notre objectif à tous, ici, je pense. Et voici que Paul nous dit à deux reprises que ce n'est pas possible. Romains 7, 18. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Et dans Galates 5, 17, il nous remet une couche. « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Alors que penser? C'est fichu? Nous n'y arriverons jamais? Le combat est perdu d'avance? Puisque Paul le dit lui-même. Alors moi, Christian, infiniment plus faible dans ma foi que Paul, que puis-je faire? Est-ce cela être chrétien, une expérience d'échec perpétuel? Oui, si nous étions laissés à nous-mêmes, nous ne pourrions faire ce que nous voulons. Nous céderions au désir de notre vieille nature. Mais n'oublions pas le verset 16. Paul dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Marchez selon l'esprit. L'Esprit Saint qui est donné à tout croyant le jour où il donne sa vie à Dieu, laissons-le agir en nous, diriger nos vies. Alors nous ne succomberons pas aux tentations de la chair, aux tentations du monde. Certes, nous les expérimenterons toujours, nous dit John Stott, mais nous n'y donnerons pas libre cours. Au contraire, nous produirons le fruit de l'Esprit. J'ai pu remarquer tout au long de mon parcours avec Dieu que chaque fois que j'avais trébuché, et que je trébuche encore, c'est que pour une raison ou une autre, j'avais baissé la garde. Le deuxième sous-chapitre de ce passage, c'est le chemin de la victoire. Versets 24 et 25. « Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Nous devons crucifier notre vieille nature. Pour cela, il faut que le rejet de notre ancienne nature soit impitoyable. Pas de compromis possible. Même si cela est douloureux, il faut que ce rejet soit net. Nous devons laisser l'Esprit diriger notre vie. » John Stott développe ce point et termine en disant « Il ne suffit pas de céder de façon passive au contrôle de l'Esprit. Nous devons également marcher activement dans le chemin indiqué par l'Esprit. C'est seulement ainsi que le fruit de l'Esprit apparaîtra. » Et le dernier sous-chapitre, c'est la relation entre chrétiens. Verset 26, « Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et nous portant envie les uns des autres. » Les uns aux autres, pardon. Ce verset des suivants jusqu'au verset 5 du chapitre 6 décrit l'un des résultats pratiques de cette victoire. Il traite de nos relations personnelles, en particulier avec nos frères et sœurs dans l'Église. Je ne vais pas développer davantage aujourd'hui ce point. Peut-être je reviendrai une autre fois, car il mérite que nous nous y arrêtions, il me semble. En résumé, nous avons vu que les désirs de notre nature pécheresse sont nombreux et mauvais, que le fruit de l'esprit est agréable et souhaitable, que notre nature pécheresse et l'esprit sont en conflit perpétuel l'un avec l'autre, de sorte que, par nous-mêmes, nous ne puissions pas faire ce que nous voulons, et que notre rôle consiste à crucifier notre nature pécheresse en rejetant ses mauvaises œuvres et marcher par l'esprit, en favorisant l'apparition de son fruit. Cette victoire est à la portée de tout chrétien, car tout chrétien a crucifié la nature pécheresse, verset 24, et tout chrétien est dirigé par l'Esprit, verset 25. Notre devoir revient à prendre chaque jour du temps pour nous rappeler ces vérités, nous concernant afin de vivre en rapport avec elles. Si nous avons crucifié la nature pécheresse, et c'est le cas, alors nous devons la laisser clouer à la croix où elle mérite de rester et éviter de tâter les clous. J'aime bien cette expression de temps en temps, aller voir si ça brûle vraiment. Ainsi, quand le tentateur viendra avec ses insinuations trompeuses, nous devons nous retourner contre lui en déclarant « J'appartiens à Christ, aussi ai-je crucifié ma nature pécheresse. » Il est alors hors de question que j'envisage un seul instant de la descente de la croix. Ou encore, j'appartiens au Christ, aussi l'Esprit habite-t-il en moi, et je vais tendre vers les choses de l'Esprit et l'Esprit, et laisser l'Esprit diriger ma vie, en m'alignant jour après jour sur sa règle. C'était la conclusion de John Stott. Et s'il nous arrive, dans des passages à vide, de nous demander si nous avons bien l'Esprit, je terminerai par ces deux versets dans Galates 3, versets 2 et 14. « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi ?» Et au verset 14, « C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs, et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen.